Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 23 octobre 2024. Au Mozambique, le président met en garde contre une incitation à la révolte à la veille de la proclamation des résultats des élections. L'Ouganda emprisonne des membres de l'opposition pour trahison. La gouvernance en Afrique a cessé de progresser selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim.
Je pense que l'Afrique est sur une bonne voie à condition qu'elle continue à investir sur cette éducation, sur cette jeunesse et sur son avenir.
Oumarou Balarabé, économiste, va analyser les conclusions de ce rapport dans la partie magazine. Au Portugal, troubles dans les banlieues de Lisbonne après la mort d'un Capverdien tué par la police. Les États-Unis jugent le moment venu de mettre fin à la guerre à Gaza. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Mozambique, les obsèques de l'avocat du principal opposant assassiné alors qu'il préparait un recours contre des fraudes aux élections générales ont attiré ce mercredi des milliers de personnes à Maputo. Le point avec Rosine Munezero.
Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'Elvino Dias a été assassiné en raison de son rôle d'avocat représentant la formation politique Podemos, a estimé l'Union panafricaine des avocats dans un communiqué mercredi. Venancio Mondlane, qui revendique la victoire face au Front de libération du Mozambique Frelimo, parti au pouvoir, était absent aux obsèques mercredi. Le cortège funéraire pour accompagner la dépouille d'Elvino Dias précède deux journées de mobilisation jeudi et vendredi à l'appel du candidat à la présidence Venancio Mondlane. Il proteste contre des fraudes du pouvoir lors du scrutin du 9 octobre. Cependant, le président mozambicain Philippe Nyusi a prévenu mercredi que les appels à manifester violemment pourraient être considérés comme des actes délictueux dans un contexte de tension croissante à la veille de la publication des résultats officiels des élections générales du 9 octobre. Les résultats doivent être annoncés demain jeudi par la commission électorale.
En Ouganda, un tribunal militaire a condamné aujourd'hui 16 membres d'un parti d'opposition à 5 ans de prison pour possession illégale d'explosifs et trahison. Ils ont tous plaidé coupables de ces accusations, mais le chef de l'opposition, Bobi Wine, assure qu'ils ont été forcés de le faire et de demander une grâce présidentielle. La défense envisage de faire appel. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23 sont à nouveau entrés ce mercredi dans la ville de Kalembe après des combats violents avec des milices affiliées au gouvernement congolais, selon plusieurs sources. La ville de Kalembe est située sur un axe routier qui permet d'accéder à des gisements miniers dans le territoire de Walikale, situé dans l'ouest de la province du Nord Kivu. Des affrontements entre M23 et Wazalendo ont également été signalés dans les localités de Kaira et Oula, situées dans le territoire de Masisi, toujours dans la province du Nord Kivu. Les progrès en matière de gouvernance en Afrique se sont arrêtés sous l'effet de la dégradation sécuritaire et du paysage démocratique dans de nombreux pays. C'est ce qu'indique un rapport de la Fondation Mo Ibrahim publié aujourd'hui. Les précisions avec Mohamed Oumfa.
Le rapport révèle des progrès de gouvernance dans 33 pays de 2014 à 2023, mais pour les 21 autres, la situation est pire aujourd'hui qu'en 2014. Les Seychelles détrônent l'île Maurice pour la première fois du classement grâce à des améliorations notables dans les infrastructures, l'égalité homme-femme, la santé et l'éducation. À l'inverse, certains pays comme le Soudan du Sud et l'Éthiopie ont été confrontés à des conflits dévastateurs au cours des 10 dernières années, tandis qu'une série de coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest et centrale a souligné la fragilité du processus politique. Mais sa plus grande préoccupation concerne la camisole de force financière dans laquelle les pays africains sont coincés en raison du lourd fardeau de la dette et du prix élevé qu'ils doivent payer pour accéder aux liquidités des prêteurs mondiaux. En dépit d'un tableau assez sombre, Mo Ibrahim trouve aussi des motifs d'espoir dans la jeune génération africaine, mieux informée et plus entreprenante.
Au Portugal, des troubles sont enregistrés dans les banlieues de Lisbonne. Après la mort d'un homme noir tué par la police, des mouvements antiracistes dénoncent les circonstances de l'accident. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
Des véhicules et bus brûlés, des policiers attaqués au jet de pierre. C'était la deuxième nuit de troubles dans plusieurs banlieues de Lisbonne. Selon les médias nationaux, les troubles ont été provoqués par des groupes de jeunes de ces quartiers défavorisés où vivent des communautés issues de l'immigration. Les violences ont été déclenchées par la mort d'un homme de 43 ans originaire du Cap-Vert, tué par la police dans la nuit de lundi à mardi. Odair Moniz a été tué par balle après avoir essayé de fuir la police et tenté d'attaquer des agents à l'arme blanche, selon la version des forces de l'ordre qui ont annoncé l'ouverture d'enquêtes criminelles et disciplinaires. L'association SOS Racisme relie cette affaire à d'autres cas de brutalité policière. Pour elle, les morts de personnes noires aux mains des agents de police suscitent les plus grands doutes et inquiétudes autour des réelles motivations des interventions des forces de l'ordre. La police a fait part mercredi de l'arrestation de 3 personnes et d'une 60aine d'incidents à Lisbonne et 7 autres communes des environs de la capitale portugaise.
En Afrique du Sud, l'Alliance démocratique, ancien parti d'opposition, devenu le principal partenaire de l'ANC au sein d'un gouvernement de coalition, ne considère pas la Russie ou Vladimir Poutine comme un allié, a-t-elle déclaré ce mercredi. Le parti réagit aux propos du président Cyril Ramaphosa, qui a qualifié la Russie d'allié, cher et d'ami précieux, mardi en marge d'une rencontre bilatérale avec son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d'un sommet des BRICS à Kazan. Au Sénégal, une grande librairie a annoncé ce mercredi annuler la cérémonie de dédicace d'un livre sur la Casamance, région du sud du pays en proie à une vieille rébellion indépendantiste dont la publication prochaine a donné lieu à de vives protestations publiées aux éditions françaises Cartala. L'ouvrage devait être présenté samedi à Dakar par son auteur, l'historienne française Séverine Awenengo d'Alberto, chercheuse au Centre national de la recherche scientifique. Il est intitulé « L'idée de la Casamance autonome, possible et dette morale de la situation coloniale au Sénégal ».
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, à moins de 2 semaines d'une élection scrutée par le monde entier et dont l'issue reste incertaine, les 2 candidats se démultiplient sans s'épargner. Mercredi, la candidate démocrate Kamala Harris sera en Pennsylvanie et passera sur le grill de citoyens, lui posant des questions lors d'une réunion publique sur la chaîne CNN. Donald Trump se rend en Géorgie où le vote anticipé a commencé très fort. Il tiendra une réunion publique sur le thème de la foi dans une chapelle à Zebulon, puis un meeting à Duluth. Les 2 camps multiplient les appels pour pousser les électeurs à se rendre le plus tôt possible aux urnes. Et ce mercredi, ils étaient près de 23 millions d'électeurs à avoir déjà fait leur choix, selon l'organisation indépendante Election Project. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Riyad pour tenter de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et éviter une escalade dans la région. Après une visite au Qatar demain, il va rencontrer des homologues arabes à Londres vendredi pour discuter du conflit au Moyen-Orient. Nathalie Barge.
Anthony Blinken s'est rendu à Riyad à partir de Tel Aviv. À son arrivée, il s'est entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Selon le département d'État, ils ont discuté de la nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza et d'instaurer une stabilité régionale durable. Avant son départ, M. Blinken a appelé l'État hébreu à saisir l'occasion de normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite. Il a aussi exhorté Israël à choisir la voie de l'intégration et de la collaboration avec ses partenaires arabes pour isoler l'Iran. Le mois dernier, Mohamed Ben Salman a déclaré que son pays n'établirait pas de relations diplomatiques avec Israël avant la création d'un État palestinien. Monsieur Blinken doit se rendre demain au Qatar avant des entretiens vendredi à Londres avec des homologues arabes. Par ailleurs, le Hezbollah a confirmé la mort de Hachem Safieddine, chef de son conseil exécutif et successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du mouvement islamiste libanais. L'armée israélienne a annoncé l'avoir éliminé début octobre dans une frappe près de Beyrouth.
En Turquie, un attentat a fait 4 morts et 14 blessés ce mercredi devant le siège des industries de défense à proximité d'Ankara. Selon les bilans partagés par les autorités, le ministre turc de la Défense accuse le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Les autorités ukrainiennes ont ordonné ce mercredi l'évacuation des enfants et de leurs familles d'un village de la région de Kharkiv. Dans le nord-est de l'Ukraine, face aux attaques russes, l'armée ukrainienne est désormais en difficulté dans l'est face à des troupes russes plus nombreuses et mieux armées. Les soldats russes avancent notamment dans la région de Donetsk, où il menace Pokrovsk, une ville importante pour la logistique militaire ukrainienne. Et puis, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin fait part ce mercredi pour la première fois de preuve de la présence de milliers de soldats nord-coréens en Russie. Et voyant le risque d'une escalade majeure dans la guerre en Ukraine, M. Austin s'exprimait dans l'avion l'amenant à l'Italie, en Italie où il doit participer à une réunion de ses homologues du G7. À Bruxelles, une porte-parole de l'OTAN de son côté dit que les pays de l'Alliance Atlantique ont confirmé les preuves du déploiement de troupes de la Corée du Nord en Russie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Abdourahman Dia.
Les obligations en dollars du Mozambique ont chuté pour le troisième jour consécutif ce mercredi, selon des données de TradeWeb, alors que le risque de troubles persistait en raison des résultats contestés des élections générales du 9 octobre. L'unique euro-obligation du pays, qui arrive à échéance en 2031, a perdu 0,54 centimes pour s'échanger à 84,92 pour un dollar, portant ses pertes depuis vendredi à plus de 200. Le géant pharmaceutique suisse Roche a augmenté ses capacités de production pour fabriquer des tests de diagnostic du Mpox, a indiqué mercredi son patron lors de la publication des ventes du groupe sur 9 mois. Depuis plusieurs mois, une nouvelle épidémie de cette maladie virale touche l'Afrique, les chiffres d'infection les plus élevés se trouvant en République démocratique du Congo, au Burundi et au Nigeria. Mais mardi, un premier cas d'infection au nouveau variant de ce virus a été confirmé en Allemagne. Boeing a annoncé ce mercredi une perte nette de 6,17 milliards de dollars pour le troisième trimestre à cause des conséquences de la grève de plus de 33 000 de ses ouvriers depuis mi-septembre et de lourdes charges de ses branches aviation commerciale ainsi que défense et espace. Entre juillet et septembre, l'avionneur américain a vu son chiffre d'affaires reculer de 1%, atteignant 17,84 milliards de dollars.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La NBA est de retour et en fanfare grâce à LeBron et Bronny James, premier duo père-fils sur un même parquet avec les Lakers.
Oui, homme de tous les records, LeBron James, qui débute à 39 ans sa 22e saison NBA, un record partagé avec Vince Carter, a une nouvelle fois marqué l'histoire en famille cette fois, en disputant au plus haut niveau un match de basket avec son fils Bronny, 20 ans, qui débute sa carrière. Les Lakers se sont imposés 110 à 103, notamment grâce à Anthony Davis, 36 points et 16 rebonds face à Minnesota. Juste avant, ce sont les champions en titre, les Boston Celtics, qui ont donné le ton en ouverture de la saison. Ils ont pulvérisé les New York Knicks, 132 à 109, s'affichant comme les grands favoris à leur succession. Ce succès d'entrée des champions en titre, les Celtics, n'a pas eu beaucoup d'écho comparé au début du duo père et fils, les Brown et Bronny James. Ils étaient nombreux à ne pas vouloir manquer l'histoire au Crypto.com Arena.
C'est tellement incroyable. Je regarde LeBron depuis qu'il est tout jeune et maintenant le voir construire Bronny et le faire devenir l'homme qu'il est, c'est comme si c'était historique pour moi. C'est tellement incroyable.
Je sais que j'ai entendu certaines personnes dire qu'il ne pouvait pas jouer, mais je pense qu'il pourrait le faire parce que c'est son père qui l'a formé. Je pense donc que c'est un bon joueur.
C'est important car je pense qu'ils ne joueront plus très très longtemps ensemble. J'ai l'impression qu'il leur reste encore 1, 2 ou 3 ans. Qui sait? Il est très très rare qu'un père et son fils jouent ensemble pour une telle équipe et à ce niveau. C'est pourquoi je suis heureux de les voir tous les deux aujourd'hui.
Des nouvelles du mondial féminin des moins de 20 ans avec un grand Nigeria.
Déjà qualifié après 2 victoires successives, 4-0 contre l'Équateur et 4-1 contre la Nouvelle-Zélande, le Nigeria s'est imposé 1-0 face au pays hôte, la République dominicaine, lors de la 3e journée des matchs de poule. Les Super Flamingos finissent ainsi leader de la poule A et se qualifient pour les quarts de finale. Difficile par contre pour les autres représentants africains. Après 2 défaites en 2 matchs, le Kenya déjà éliminé fait face ce soir au Mexique, aussi out. Toujours ce soir, la Zambie aussi éliminée joue pour l'honneur devant le Japon.
Page des sports VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le MPS, le Mouvement Patriotique du Salut, casse la coalition Tchad-Uni, un regroupement de 236 partis politiques qui ont soutenu la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle du 6 mai dernier. Le secrétaire général du MPS demande à ses partis alliés de démontrer leur propre force aux élections législatives, communales et provinciales du 29 décembre au lieu de compter sur la coalition. Une rupture qui alimente le débat dans le milieu politique. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Chaque parti politique a d'abord son identité et ses militants. Chaque parti politique a sa cartographie électorale. On ne crée pas un parti pour être un allié.
Mahamat Zen Bada, secrétaire général du MPS, face aux plus de 200 responsables des partis politiques alliés qui ont plébiscité Mahamat Idriss Déby Itno à la magistrature suprême.
Chacun peut se présenter là où il peut et là où il veut et au scrutin qui lui semble facile. Mais ce serait au cours de la récolte que nous allons parler.
Diverses politiques ou stratégies de surenchère pour mieux manipuler les petits partis politiques. En tout cas, certains alliés qualifient ces propos d'ingratitude.
Nous en tirons aujourd'hui les leçons. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est l'ingratitude, la mauvaise foi. Si les gens pensent que c'était une manière de nous avoir utilisé pour nous jeter aujourd'hui, on laisse à la conscience de chacun.
François Ndjekombe, président de l'Union sacrée pour la République, l'un des alliés, tout en prenant acte de cette déclaration, il informe que cette rupture est inattendue et indigeste.
Pourquoi, à la présidentielle, on avait besoin des autres pour accompagner le président? Aujourd'hui, ils pensent que maintenant ils peuvent écraser tout le monde et ils n'ont plus besoin de quelqu'un. C'est ça qui est malhonnête en fait. Parce que de toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, ce sont les 230 partis qui ont contribué à l'élection du président Mahamat. C'est des propos qui choquent les gens.
La plupart de ces partis n'ont pas une bonne structure de fonctionnement et donc sans militants, estime Maître Théophile Bongoro, homme politique et conseiller national.
Et surpris celui qui voudrait l'être. Parce que dès au départ, j'avais dit que sur les 221 partis à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est 229, que la plupart n'avaient d'existence que la présence de leur dossier dans les archives du ministère de l'administration du territoire. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Il les a chassés. Moi, je suis d'accord avec lui qu'on ne crée pas une formation politique pour être allié. Si cela peut servir un peu de leçon à but pédagogique, et tant mieux qu'ils retiennent ça.
Pour certains acteurs politiques, une alliance ne se forme pas avant les élections.
Il faut aller et c'est au sortir donc des urnes qu'on tisse les alliances pour former des groupes parlementaires pour avoir des visions ainsi de suite. Aujourd'hui, tout le monde, chacun se réclame de l'opposition, chacun se réclame de la majorité. C'est une fausseté politique.
Aladoum Djarma Baltazar, président du parti Astre et ancien géniteur de cette coalition qui est en dislocation. Pour lui, ceux qui crient au scandale viennent d'apprendre leur première leçon politique.
Cette coalition s'appelait Alliance pour le Oui. Mais dès lors que c'est devenu Coalition pour le Oui, nous autres, on a pris notre route parce qu'on savait que dedans, il se tramait donc une nouvelle leçon politique. Et donc, c'était juste une coalition pour aller aux élections. Ce n'est pas une coalition pour gouverner, pour diriger ou ensuite pour travailler. Parce qu'on ne peut pas venir dans une alliance avec les mains vides. Nous savons qu'en réalité, c'est des vendeurs d'illusions, ce n'est pas des politiciens. Parmi eux, il y en a même qui n'ont pas eu de carte d'électeur parce qu'ils n'ont pas pu voter.
Le secrétaire général du MPS a prononcé le divorce politique entre la coalition pour un Tchad uni au lendemain du refus du parti Les Transformateurs de participer à ces élections. Car, selon son leader, Dr Succès Masra, participer à ces élections revient à cautionner un résultat qui est déjà connu d'avance, réitérant des accusations de fraude formulées pendant la présidentielle de mai dernier. André Kodumajinga, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Depuis 3 ans, les produits pétroliers deviennent rares avec toutes les conséquences sur le quotidien des Burundais. La pénurie des produits pétroliers paralyse l'économie du pays qui était déjà mal en point. Des files d'attente de camions et véhicules devant les stations sont devenues interminables, tout comme les lamentations des conducteurs. Les autorités tranquillisent. Reportage de Christophe Nkuruziza, notre correspondant à Bujumbura.
Quand l'on se dirige vers la province de Bujumbura rurale, au bord de la route traversant les quartiers de Moussaga vers le sud Bujumbura, de longues files de camions-citernes, bus de transport et voitures des particuliers sont observées devant les stations-service de la localité. Certains conducteurs viennent de passer toute la nuit en attente d'être servis. Ce jeune homme, Martin Dimouvandi, indique qu'il n'en peut plus.
Les autorités nous avaient promis que le carburant serait disponible dans 2 jours. Où est ce carburant qui est devenu rare? J'ai de l'argent. 2 semaines viennent de s'écouler sans que je me déplace avec ma voiture. C'est vraiment dommage.
D'autres chauffeurs rencontrés à la station-service affirment que la dernière distribution de carburant date d'une semaine et c'était uniquement pour le mazout. Cet autre chauffeur d'un bus de transport est obligé de se déplacer jusqu'à la frontière avec la République démocratique du Congo pour avoir du carburant, mais il paie très cher le litre d'essence et ou de mazout.
Le gouvernement nous avait promis de l'essence, ça fait déjà 2 semaines. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Des fois, on achète à 300 000 francs. Le prix que l'État avait dit qu'on allait acheter 1 litre d'essence était de 4 000 francs. Donc, c'est vraiment intenable. Je demande que le gouvernement honore ses engagements.
Il y a 2 mois, le président burundais Evariste Ndayishimiye avait annoncé que 3 bateaux ramenant le carburant étaient en chemin pour pallier à cette carence de carburant. Jusqu'à cette date, les transporteurs attendent impatiemment. Cette pénurie crée des difficultés pour les citoyens burundais et étrangers vivant dans le pays des mille et une collines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les progrès en matière de gouvernance en Afrique se sont arrêtés sous l'effet de la dégradation sécuritaire et du paysage démocratique dans de nombreux pays du continent, selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim publié ce mercredi. Pour une analyse, Mohamedou Mfa a joint l'économiste camerounais Oumarou Balarabé.
C'est normal que quand il y a de l'insécurité, que l'indicateur global, l'indice global, il soit défavorable à la gouvernance. Et c'est ce qui s'est passé parce que ce que le rapport dit, c'est qu'il y a des pays où il y a eu de la paix, il y a eu de la stabilité démocratique. Dans ces pays-là, il y a eu des progrès, aussi bien sur les infrastructures que sur la gouvernance politique. Ce niveau de gouvernance-là, il n'a pas progressé quand on prend l'Afrique collectivement. Il n'y a pas eu de progrès de gouvernance sur le pas de temps de 2014 à 2023.
En dépit d'un tableau général assez sombre, Mo Ibrahim trouve des motifs d'espoir dans la jeune génération africaine. Ils sont mieux informés, plus entreprenants et ils en ont assez, dit-il. A-t-il des raisons d'être optimiste, Dr Balarabé? On voit que les jeunes cherchent plutôt à partir dans les pays développés.
Absolument, parce que les moteurs du développement, les moteurs de tout ce qu'il y a comme innovation, c'est les jeunes. Et à partir du moment où il a utilisé 2 mots, le rapport a sorti 2 mots, c'est qu'ils sont plus entreprenants d'un côté et qu'ils sont plus informés de l'autre. Aujourd'hui, il faut savoir que l'information, en fait, renvoie toujours au support d'information aujourd'hui qui est pas seulement l'informatique, mais aussi l'intelligence artificielle. Les jeunes aujourd'hui, ils ont une meilleure maîtrise de l'intelligence artificielle et de l'autre côté, ils sont plus entreprenants. Je relève, comme vous le dites, Mamadou Oumfa, que les jeunes voyagent, mais c'est une infime part de la jeunesse africaine qui voyage. Mais en fait, il y a aussi des retours. En fait, les retours, même si ce n'est pas le même niveau d'éducation forcément qu'ils ont, ils reviennent avec de l'expérience, ils reviennent avec un enseignement en termes de diversité. Et ceux-là, ils sont porteurs d'entrepreneuriat. Et c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir parce qu'en gros, ce qui va être le moteur de développement de demain, c'est la jeunesse à travers l'innovation et l'entrepreneuriat. Et c'est l'intelligence artificielle qui va catalyser toute cette transformation qui doit être économique, qui doit être individuelle, qui doit être collective. Et pour cela, on a tout ce qu'il faut. On a des jeunes et on a des jeunes entrepreneurs et informés. Moi, je pense que je partage absolument cet optimisme-là. Et je pense que l'Afrique est sur une bonne voie à condition qu'elle continue à investir sur cette éducation, sur cette jeunesse et sur son avenir.
Alors, il y a une partie de la jeunesse africaine et de nouveaux leaders africains qui pensent que la solution au problème de gouvernance se trouve dans ce qu'ils considèrent comme le souverainisme ou alors le panafricanisme. Est-ce une solution selon vous?
Il faut une certaine dose de souverainisme et de panafricanisme pour avancer, mais il ne faut pas pratiquer le souverainisme dans le cadre d'un espace politique ou bien dans le cadre d'une gouvernance politique globale d'un État. Du souverainisme, en fait, je ne vois pas ce souverainisme politique et revendicateur parce qu'en fait, celui-là, il est issu d'une certaine radicalisation. Ce qu'il faut recommander, c'est un petit peu du souverainisme économique, c'est que chaque pays, chaque État africain a besoin d'une certaine dose de protection pour développer les composantes industrielles agricoles pour lesquelles elle a besoin de s'affirmer. De l'autre côté, il faut parler de panafricanisme économique parce que l'Afrique va se concentrer sur ce marché africain, va se développer à partir de ce marché africain. C'est du panafricanisme, mais du panafricanisme économique, du panafricanisme utile.
Oumarou Balarabé, économiste camerounais.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le secrétaire à la défense américain Lloyd Austin s'est rendu en Ukraine alors que les Ukrainiens s'inquiètent de la lassitude croissante des alliés occidentaux face à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nathalie Bage relate un reportage d'Anna Charnikova depuis Kiev.
Deux semaines avant l'élection présidentielle américaine, Lloyd Austin s'est rendu à Kiev pour assurer l'Ukraine du soutien futur des États-Unis. Le chef du Pentagone a déclaré que Washington n'abandonnera pas les Ukrainiens.
Le leadership américain coûte cher. Eh bien, considérez le prix du retrait américain. Face à l'agression, le prix du principe est toujours éclipsé par le coût de la capitulation.
La Russie connaît des avancées sur le terrain et l'inquiétude grandit parmi les Ukrainiens face à la lassitude des alliés occidentaux vis-à-vis de cette guerre qui dure depuis bientôt 3 ans. Selon l'analyste politique Mykola Bieleskov, la Russie compte sur la guerre d'usure.
Il est très difficile de résister aux guerres d'usure et de s'investir davantage. C'est un véritable défi pour l'Ukraine. C'est sur cela que la Russie compte dans sa stratégie.
Les Ukrainiens subissant la guerre disent espérer que le soutien américain va se poursuivre quels que soient les résultats des élections américaines, comme Serafima, une résidente de Dnipro.
Je pense que l'Amérique continuera à nous soutenir. Ils comprennent tout. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet.
Yuri habite à Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine.
Je ne pense pas que cela va beaucoup faiblir, parce que les États-Unis ont toujours des obligations contractuelles. Il y aura de l'aide. Cela dépend des prochains événements. Tout peut changer à tout moment.
Même inquiétude pour Ruslana, résident à Rivne, dans l'ouest de l'Ukraine.
J'ai peur que cela puisse diminuer, mais je pense que tout ira bien. Il faut que l'on comprenne que nous devons gagner et que nous avons besoin d'aide.
Alors que l'attention du monde entier est tournée vers les prochaines élections américaines et la guerre au Moyen-Orient, les Ukrainiens espèrent toujours le soutien des États-Unis afin que leur pays puisse continuer à défendre sa souveraineté.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Since I survived, I realized wherever you go.